instance, this is the sort of thing that possibly happened.
Bien, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être ici donc, dans cet atelier qui s'appelle « Politiser l'esthétique entre cinéma et théâtre ». Donc, on a trois intervenantes. Donc, tout d'abord, Sophie Coudray, qui est à Terre à l'Université de Strasbourg, qui est en train de terminer une thèse à l'Université de Lyon 2 sur le théâtre de l'opprimé, et qui est aussi membre du comité éditorial de la revue Période. Ensuite, on a Stéphanie Baumann, qui fait un post-doc en film et philosophie à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et enfin, Sophia Zitti, qui est performeuse, activiste, jeune chercheuse, et qui aime se définir comme maîtresse en genre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des interventions d'une vingtaine de minutes, et ensuite, l'idée, c'est qu'il y ait un débat, une discussion collective. Donc on va essayer d'avoir assez de temps pour laisser place à la discussion. Et donc, c'est Sophie Coudray qui va commencer avec une communication intitulée « Regard, représentation, adresse, quelques pistes pour penser la production théâtrale contemporaine ».
Alors, cette communication est une façon pour moi d'ouvrir un nouveau chantier de recherche et de réflexion sur des questions théoriques relatives au théâtre, et plus précisément sur ce que pourrait être une approche marxiste du théâtre. Alors, évidemment, ça représente un champ d'investigation relativement vaste que, pour l'instant, je diviserai en deux parties. D'un côté, une réflexion que j'ai commencé à mener autour de l'artiste comme producteur, qui porte donc sur le statut de l'artiste et le mode de production du théâtre. Et de l'autre, ce que je vais présenter aujourd'hui, qui se concentre davantage sur des questions esthétiques abordées ici sous l'angle de l'idéologie. Alors pour ce faire, je vais mobiliser plusieurs concepts afin d'en tester la pertinence, de les mettre à l'épreuve d'une réflexion sur le théâtre et ainsi d'essayer d'élaborer à partir de ces concepts des outils efficients pour une analyse marxiste renouvelée du théâtre. Donc il s'agit d'une réflexion en cours qui ne se prétend absolument pas achevée et qui est encore certainement lacunaire. Ce sont davantage des hypothèses plutôt que des certitudes et je vous les présente ici afin de vous les soumettre et ensuite de les améliorer grâce à la discussion collective. Pour parler de l'idéologie, je vais me placer ici dans une optique althusserienne qui tend à définir l'idéologie comme le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence, tout en considérant que celle-ci a une existence matérielle, qu'elle s'incarne dans des appareils idéologiques et dans des pratiques. À partir de là, les notions que je vais solliciter sont les notions de regard, gaze en anglais, car il s'agit d'un terme qui est plus fréquemment utilisé et étudié en dehors de l'hexagone, ainsi que les concepts d'adresse et d'interpellation. Donc il s'agira de penser dialectiquement ces concepts, de les faire dialoguer dans le cadre spécifique du champ théâtral. L'idée de départ est que la conception de l'œuvre et à travers elle le regard de l'artiste détermine la façon dont l'œuvre s'adresse aux spectateurs et que, dans ce mouvement, interpelle ses spectateurs, les constituant ainsi en sujet de la représentation théâtrale et façonnant leur regard, le regard que ces spectateurs portent en retour sur l'œuvre. Donc l'enjeu de cette présentation est d'éclaircir le sens et l'usage que l'on peut faire de ces concepts dans le cadre d'une approche marxiste du théâtre et de cerner un peu mieux cette relation dialectique qu'ils entretiennent entre eux. Alors tout d'abord, qu'entend-on par regard? Je parle ici de la construction du regard du spectateur face à une œuvre, une construction qui est en grande partie déterminée par les choix esthétiques qui ont été réalisés au moment de la création de l'œuvre. Donc il s'agira dans un premier temps d'envisager les représentations comme étant historiquement et socialement construites, pour ensuite évoquer la manière dont celle-ci s'avère déterminante dans la façon dont une œuvre va, à son tour, construire le regard du spectateur. Alors on ne peut pas évoquer la notion de regard sans faire référence à Laura Mulvey, qui a développé cette notion en parlant du male gaze, le regard mâle, qu'elle utilise pour aborder la question de la représentation des femmes au cinéma, notamment dans « Visual Pleasure and Narrative Cinema ». Pour faire court, le male gaze, c'est le fait que le type d'image produite, la construction des images par le cadrage, le rythme, le montage, la lumière, par exemple, amène le public à regarder ces images dans une perspective masculine et hétérosexuelle. On pense par exemple à la figuration du corps féminin systématiquement sexualisé, au cadrage qui fragmente le corps, qui en font un objet de désir, de plaisir visuel à la fois au sein de la narration et pour les spectateurs, au personnage féminin présent comme faire-valoir du protagoniste masculin, etc. Une grande partie du pouvoir de ce male gaze réside dans le fait que les femmes, spectatrices de ces images, sont amenées à s'identifier, en tant que femmes, à des représentations construites par ce regard masculin, qu'on peut qualifier d'hétérosexiste, donc dans un processus d'auto-objectivation. Leur propre regard est façonné par ce regard qui n'est au départ pas le leur, mais qu'elles finissent par adopter pour finalement se regarder elles-mêmes à travers ce regard masculin, mais aussi par regarder les autres femmes à travers ce même regard. En ce sens, le regard est un puissant vecteur de l'idéologie hégémonique. On retrouve ici ce que dit Raymond Williams à propos de l'hégémonie lorsqu'il explique que la classe dominante ne se maintient pas uniquement au pouvoir par la force, mais entre autres aussi par le consentement, qui s'obtient par, je le cite, « la saturation de l'habitude, de l'expérience, des perspectives, afin que ce que les gens pensent et ressentent soit dans une large mesure la reproduction de l'ordre social profondément ancré, auquel ils peuvent même d'une certaine façon s'opposer, et auquel ils s'opposent vraiment. » Les propos de Raymond Williams nous conduisent à Althusser, puisque nous lui devons d'avoir théorisé la question de l'idéologie, et l'un des angles par lesquels il aborde cette question, et qui est celui qui m'intéresse ici, est la notion d'appareil idéologique d'État. Les appareils idéologiques d'État, ce sont les institutions, comme l'Église, l'école, la famille, mais aussi la culture et l'art, qui complètent les appareils répressifs d'État, mais en s'appuyant moins sur la répression, sur la violence, et davantage sur l'idéologie, bien, je fais une parenthèse, bien qu'ils fonctionnent également à la violence, de même que les appareils répressifs fonctionnent également à l'idéologie. Et la spécificité de ces appareils idéologiques d'État réside dans le fait que leur rôle principal est la suggestion volontaire de ceux à qui ils s'adressent, ou le consentement, pour le dire avec Gramsci. Des appareils idéologiques d'État dans lesquels la classe dominante est active, car c'est à travers eux, en partie, qu'elle peut maintenir dans le temps son hégémonie. Ces appareils idéologiques d'État, dans lesquels donc, on peut placer les institutions artistiques, sont aussi le terrain et l'enjeu de lutte de classe. La classe dominante s'y trouve d'ailleurs davantage confrontée à des forces antagonistes que dans les appareils répressifs d'État, parce que, comme l'écrit Althusser, la résistance des classes exploitées peut trouver le moyen et l'occasion de s'exprimer, soit en utilisant les contradictions qui y existent, soit en y conquérant par la lutte des positions de combat. C'est pourquoi donc, c'est un domaine dont, en tant que militant, en tant que théoricien marxiste, il faut s'emparer. J'en reviens à ma notion de regard, que j'ai exposée dans son versant cinématographique, et je vais l'amener maintenant vers le théâtre. Le principe est finalement le même, et ce sont les modalités esthétiques qui vont évoluer. Alors, pour l'évoquer au théâtre, je ne prendrai pas l'exemple du male gaze, mais du white gaze, qu'on pourrait traduire par regard blanc. D'un point de vue théorique et sur quelque chose qui serait de l'ordre d'une histoire philosophique du white gaze, alors je ne peux que renvoyer à un article très intéressant qui a été écrit par Monique Roloffs, « Racialization as an aesthetic production, what does the aesthetic do for whiteness and blackness and vice versa ?» Donc un article dans lequel elle explique que les constructions esthétiques sont bâties sur des structures sociales et raciales, mais aussi et réciproquement que les constructions raciales s'appuient elles aussi sur des éléments esthétiques. Elle écrit, je la cite, que les formations des identités raciales sont des phénomènes esthétiques et les pratiques esthétiques sont des structures racialisées. Alors, je ne rentrerai pas ici dans le détail de ces mécanismes et m'en tiendrai à son application à des productions théâtrales. Je donnerai un exemple, quelque peu marquant, d'une œuvre qu'on pourrait analyser par le prisme du white gaze, qui est l'installation qui a été l'objet de scandale et de mobilisation, Exhibit B de Brett Bailey, qui a commencé à tourner en 2010 et qui a été programmée en France, et à Avignon et notamment à Paris, en 2013. Une installation qui, je le rappelle, mettait en scène des tableaux vivants avec des acteurs noirs, immobiles et silencieux, souvent contraints physiquement, reproduisant plus que représentant, sans doute, des scènes de l'histoire coloniale et postcoloniale, jusqu'à la situation contemporaine des personnes sans papier expulsées. La visée de cette installation, pour son concepteur, était clairement antiraciste. Le problème est que dans ses effets, ce n'était pas si clair que ça. Pourquoi ? Parce que le dispositif dans lequel déambulaient les spectateurs européens regardant ses corps noirs entravés, exhibés, mutiques et soumis au dispositif lui-même, ne faisait finalement que recréer l'expérience spectatoriale voyeuriste des zoos humains du début du siècle dernier. En cela, donc, le dispositif ne permettait en aucun cas de s'affranchir de cet héritage, de rompre avec, mais venait plutôt en renouveler l'expérience comme figée dans le temps, tout en modifiant le discours qui le sous-tendait, puisqu'il s'agissait ici, pour Bailey, de le dénoncer. L'artiste prétendait donc cette œuvre antiraciste, mais les choix artistiques, esthétiques, qui prévalaient à la construction du regard du spectateur, s'inscrivaient dans une continuité et non en rupture avec les représentations racistes. Elle les réitérait tout en les dénonçant. Il s'agissait donc encore et toujours de corps noirs, sans voix, sans identité, sans histoire, sans révolte, exhibés, assujettis à une narration élaborée par un artiste occidental, exposés à la vue d'occidentaux et provoquant des affects parfois douteux. Donc les représentations sont des constructions historiques et sociales, de même que le regard qu'elles contribuent à façonner. C'est aussi pourquoi une œuvre ne peut s'appréhender indépendamment du contexte de sa production et de sa réception. Or, ici, le contexte était celui de la programmation de cette installation dans un théâtre public à Saint-Denis, une institution participant des appareils idéologiques d'État, et d'un État raciste, en l'occurrence, qui est l'État français. Le contexte est aussi celui de manifestations de la population de Saint-Denis, majoritairement non blanche, descendant de peuples colonisés par l'État français, et surtout des manifestations que la police, un appareil répressif d'État, est justement venu réprimer violemment, ce qui apporte ici d'ailleurs un bon exemple de la manière dont les appareils idéologiques d'État et les appareils répressifs d'État peuvent aussi marcher parfois main dans la main. De fait, il se produisait un phénomène de correspondance et d'écho, puisqu'à l'intérieur du théâtre comme à l'extérieur, c'était finalement la même population qui était réduite au silence, la même population qui était l'objet de représentation et non les sujets, c'est-à-dire les producteurs, qui étaient destinataires du sens de l'œuvre sans qu'on leur permette d'avoir une quelconque prise dessus. Le regard du spectateur était présupposé et tout regard discordant n'était pas accepté. C'est l'idée qui sous-tend des arguments tels que « vous n'avez pas compris cette œuvre, vous n'avez pas su saisir sa signification antiraciste ». Un argument qui peut d'ailleurs être assez autoritaire et méprisant puisqu'il concentre la capacité à donner du sens, à tirer un discours à partir d'une œuvre, dans les mains des seuls artistes ou de la seule fraction du public qui soit en accord et qui se conforme à la place qui lui a été accordée par l'artiste dans le dispositif. En introduction de son livre « Politique du spectateur », Olivier Neveu écrit, et je le cite, « En dernière instance, au théâtre, ce qui est politique, une politique conflictuelle, de rupture, de négation, d'émancipation, est la conception implicite ou explicite, spontanée ou théorisée, que le spectacle porte de son spectateur, le spectateur qu'il construit ou non, et le rapport qu'il entend nouer avec lui. » Ce qui est contenu en creux dans cette proposition est la question de l'adresse. Alors qu'est-ce que cette adresse ? Pour reprendre une formulation de Jean-Jacques Lecercle, l'adresse est le lieu d'un processus d'impulsion de force pour influencer le destinataire ou établir le contact avec lui. Il s'agit de prime abord donc d'une notion qui trouve bien évidemment sa place dans une approche analytique du théâtre. L'adresse au théâtre, lorsqu'elle émane d'un acteur et à destination d'un partenaire de jeu ou du spectateur, ne pose a priori aucune difficulté méthodologique. L'adresse se fait avant toute chose par la parole, mais pas seulement. À travers une œuvre, le metteur en scène s'adresse à ses spectateurs, par l'intermédiaire du texte et de l'acteur, certes, mais aussi des choix esthétiques opérés au sein de la mise en scène. Mais je voudrais amener cette question de l'adresse au théâtre plus loin en affirmant que l'adresse contribue à façonner le regard du spectateur, en l'orientant, en lui donnant trop ou trop peu d'informations, en brouillant les pistes, en le guidant ou en le laissant errer, en le saturant d'affect, en imposant son propre rythme, etc. On pourrait se référer ici à la notion de structure latente employée par Althusser, qui contient tout ce qui n'est pas expliqué pédagogiquement au spectateur, mais communiqué par des éléments dramaturgiques. Tout n'est pas question de parole dans l'adresse, mais aussi d'image, de sensation, de rythme. La question de l'adresse nécessite d'être abordée dans la relation dialectique qu'elle entretient avec celle d'interpellation. Jean-Jacques Lecercle précise en effet que l'adresse est la force qui interpelle les individus en sujet, cette force qui est communiquée, qui va droit au but, est une force qui identifie et qui subjectifie et le destinataire visé et le destinateur visant. L'interpellation est un concept développé par Althusser qui a trait au processus de subjectivation. Dans la réflexion qu'il élabore sur l'idéologie, Althusser précise que l'idéologie, donc qui représente le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence, a une existence matérielle, qu'elle est un agent effectif du processus de la reproduction sociale qui agit dans la constitution des individus en sujet. Cette interpellation est d'autant plus liée à la question de l'adresse qu'elle relève d'un processus circulaire, c'est-à-dire qu'elle présuppose le sujet en même temps qu'elle le subjectifie. L'hypothèse que l'on peut formuler ici est donc que le type d'adresse adopté dans la production d'une pièce de théâtre présuppose déjà une certaine conception de son spectateur, comme spectateur virtuel, et ainsi met déjà en œuvre la construction d'un certain type de regard à travers les éléments de mise en scène. À la suite d'Althusser, Pierre Macheret souligne que l'interpellation est liée au langage, que c'est dans le langage que se forme le sujet. Même si on peut entendre ce terme de langage comme recouvrant un champ bien plus vaste que celui de la seule parole. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur la question de la parole, afin de cerner les rapports entre l'adresse, qui est cette force qui interpelle les individus en sujet, et le regard que cela induit en réponse. Le cercle écrit bien qu'il n'y a pas de langue neutre, et on pourrait ajouter qu'il n'y a pas de regard neutre. À propos de la langue au théâtre, il y a eu en 2015 un article signé par la metteuse en scène Eva Doumbia, publié sous le titre « Le phrasé qu'on enseigne aux comédiens les sépare des quartiers populaires ». Dans cet article, qui porte à la fois sur l'invisibilité des artistes qu'elle dit issus de la diversité et sur la difficulté pour les théâtres à atteindre toute une branche de la population, elle suggère l'idée que, je la cite, ce qui en réalité fait écran entre le public, souvent non blanc des classes populaires, et les scènes du théâtre institutionnel, n'est pas seulement la couleur de peau des interprètes, et encore moins la complexité des textes littéraires. C'est la manière dont ceux-ci sont prononcés. Le phrasé qu'on enseigne aux comédiens dans les écoles nationales, celui qu'on entend sur les théâtres de l'institution, est un phrasé qui les sépare des quartiers populaires. Les habitants des périphéries ne se reconnaissent pas, ne comprennent pas ce qui est dit lorsqu'ils vont dans ces théâtres. Fin de citation. Elle fait là une remarque très intéressante, je trouve, sur le langage et sur l'adresse, c'est-à-dire aussi à qui s'adressent ces spectacles et quelle subjectivation est en jeu. La langue que l'on entend majoritairement sur les scènes serait une langue qui exclut, pas en tant que langue française en tant que telle, mais en raison de son phrasé, de sa scansion, de son rythme. Elle serait la langue de l'institution et peut-être, pourrait-on suggérer, d'un appareil idéologique d'État. Je fais une parenthèse, là encore, c'est Le Cercle qui a très bien analysé cette question en ce qui concerne l'anglais plus précisément et qui explique, alors je le dis très grossièrement là, qu'il y a plein d'anglais parlés et que l'anglais des affaires, que l'anglais langue de l'impérialisme, est dans les faits parlé au quotidien par un petit fragment de la population seulement. Ce n'est pas le même anglais que celui parlé, par exemple, par les classes populaires, mais cet anglais-là a pour lui le poids des institutions. De même, la langue française n'est pas une notion abstraite et homogène, c'est une réalité concrète qui s'incarne dans des pratiques multiples et entre lesquelles existe un rapport de force. C'est pourquoi Jean-Jacques Le Cercle explique, et je le cite, que le lien linguistique est un lien social, c'est-à-dire un lien politique. Alors, on se souvient, là c'est toujours lui qui parle, que les barbares, ceux qui sont exclus de la cité, sont appelés ainsi parce qu'ils parlent charabia, c'est-à-dire un idiome que les Grecs ne comprennent pas, qu'ils ne parlent pas la langue de l'impérialisme, est un barbare. Et il est d'ailleurs assez troublant de constater que, lorsqu'Eva Doumbia a choisi, de façon à rompre avec cette adresse traditionnelle au théâtre, de mettre en scène Musset en adoptant un autre phrasé, un autre débit, sa pièce s'est vue qualifiée par des critiques mécontents de « spectacle pour sauvageons des quartiers nord ». Et là encore, c'est intéressant, puisque c'est l'adresse adoptée par l'artiste qui est remise en question, et à travers elle, la façon dont elle interpelle son public, dont cela l'identifie, le subjectifie d'une façon qui est en rupture avec l'idéologie de la classe dominante et qui a l'affront de le faire au sein de sa propre institution. Le sujet virtuel auquel elle s'adressait ne concordait pas avec les spectateurs habitués à être interpellés d'une toute autre façon au sein de l'institution théâtrale. Et ce critique avait donc l'impression que la pièce ne s'adressait pas à lui, tout comme au départ, Eva Doumbia disait que le public des quartiers populaires, issu de l'immigration, n'avait pas l'impression que le théâtre s'adressait à lui et donc n'y allait pas. Donc pour résumer mon propos, on voit, j'espère, plus clairement de quelle façon les notions d'adresse, d'interpellation et de regard sont liées entre elles, de quelle façon elles se déterminent mutuellement. Et on pourrait ainsi dire, quoique schématiquement, que l'adresse au spectateur adoptée par la mise en scène présuppose son spectateur en même temps qu'elle le subjectifie, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elle le fabrique, ou plutôt elle en façonne le regard. Autrement dit, les spectateurs sont construits comme sujets virtuels par la façon dont l'œuvre s'adresse à eux, les interpelle, et leur regard sur l'œuvre s'en trouve par conséquent prédéterminé. Et de l'autre côté, le spectateur découvre la représentation en tant que spectateur, en même temps que sa place et son regard de spectateur sont façonnés, construits par la représentation, puisqu'il s'agit d'un processus circulaire. L'ensemble de ce processus étant bien évidemment également déterminé par les conditions historiques dans lesquelles prennent place la production de l'œuvre autant que sa réception. Alors, ces notions me semblent particulièrement intéressantes du fait qu'elles permettent de penser la triangulation entre l'artiste, ou les artistes, parce que le théâtre est quand même un acte collectif, l'œuvre et les spectateurs, en même temps qu'elle tient compte des conditions et de l'historicité de la production, de la représentation et de la réception. Est-ce qu'il me reste du temps ou non ? À peu près, bon. Alors très très brièvement, je vais essayer d'ouvrir quand même quelques portes à ce stade de la réflexion, parce qu'on pourrait maintenant m'accuser de ne pas avoir pensé ici une émancipation possible du spectateur, mais plutôt la façon dont le spectacle et sa construction pourraient l'aliéner. Alors, déjà, je voudrais rappeler avec Étienne Belibar que les effets de l'interpellation, je le cite, demeurent essentiellement indéterminés, jusqu'à ce qu'ils soient déterminés par une conjoncture donnée, autant par une logique interne du discours précis de l'interpellation et par les conditions externes de son intégration dans le processus de reproduction de l'ordre existant, une combinaison dans laquelle il doit probablement toujours rester une part d'aléatoire ou de contingent. Et en effet, la contingence des conditions de production comme de réception vient en effet introduire de l'aléatoire, de l'incertitude, de l'indétermination quant aux effets de cette interpellation. Alors c'est Rancière qui dit qu'on ne peut pas présupposer des effets qu'une pièce aura sur les spectateurs, et certes on peut difficilement le contredire sur ce point. Il y a quelque chose qui échappe à tout contrôle, qui échappe à toute prédétermination. Ainsi l'adresse, telle qu'elle peut être envisagée par le metteur en scène, peut tout à fait rater son effet en fonction des conditions de réception de sa pièce. Le contexte historique peut rattraper une œuvre et en modifier substantiellement la réception. Alors je donne très brièvement un exemple, ce ne sera sans doute pas le meilleur, mais il en existe tellement d'autres. Lorsqu'en janvier 2014, Mathieu Roy monte Martyr de Maïs von Mayenbourg sur un jeune lycéen qui glisse dans le fondamentalisme chrétien et se radicalise. Il veut mener une réflexion sur l'adolescence, sur la radicalisation, en passant par la religion chrétienne pour effectuer un pas de côté vis-à-vis des discours contemporains dominants sur le fondamentalisme, et donc il ne veut pas cibler l'islam, pour penser avec détachement le phénomène. La pièce est créée en 2014, bien sûr il faut tenir compte du temps de création, et cette pièce a été diffusée à Strasbourg fin janvier 2015, quand je l'ai découverte. Elle a été diffusée exactement 15 jours après l'attaque des bureaux de Charlie Hebdo. Et là, évidemment, que quelque chose s'est grippé dans ce mécanisme et qu'une indétermination, je vais finir, une indétermination s'était ouverte, que l'adresse qui avait été élaborée n'était pas finalement celle qui était en œuvre. Que la pièce, en fait, a été littéralement perçue au travers de l'actualité. Donc combien, par exemple, combien de spectateurs, lorsque un acteur disait Bible, entendait Coran, alors que c'était vraiment Bible qui était entendue par les acteurs à ce moment-là. Bon, faute de temps, je m'arrêtais ici, mais j'ouvre en 20 secondes une petite piste de réflexion très très vaste, elle aussi à partir d'une idée que Daniel Hartley a développée, qui serait celle d'une désinterpellation qui consisterait dans la destruction des appareils qui identifient, qui simplifient et qui divisent, et qui serait à remplacer par une appropriation des moyens de production du théâtre et conséquemment de la représentation, afin de contrer les processus idéologiques d'interpellation. Et donc, cette petite ouverture, elle permettrait de faire le lien avec la question de la production théâtrale, qui serait l'autre versant d'une approche marxiste du théâtre, puisque, et là je me réfère à Raymond Williams, les moyens de communication sont des moyens de production et sont donc l'enjeu d'une réappropriation de la part des classes populaires ou des opprimés. Et je m'arrête ici.
Merci.
J'ai débordé.
Merci beaucoup. Donc, on va passer à la communication de Stéphanie Baumann. Donc, la communication s'appelle « Du réalisme en tant que protestation, penser politiquement le cinéma » avec Alexandra Klug.
Alors, bonjour. Donc, moi, je crois que ce que je vais dire s'enchaîne assez bien avec ce que toi, tu as dit. Donc, j'aimerais avant tout, en fait, présenter un concept qui est celui de réalisme antagoniste, et qui a été développé dans les années 60-70 par Alexander Kluge, notamment ici pour le cinéma, mais ça peut tout à fait aussi se référer au théâtre, je crois, ou même à la littérature. Donc avant d'entrer dans la matière, je vais juste dire quelques mots sur Alexander Kluge, que vous connaissez peut-être pas tous. Lui-même, en fait, s'est décrit une fois comme étant le narrateur de l'école de Francfort, narrateur à plusieurs niveaux, donc il est... Il est cinéaste d'un côté, mais il est aussi auteur de livres, de littérature. Et ce sont souvent des courts récits qu'il appelle Lebensläufe, ça veut dire récits de vie ou CV ou biographie ou chronique. À l'école de Francfort, il fait ses débuts en tant que conseiller juridique de l'Institut, il est juriste aussi, mais il était aussi étudiant d'Adorno et un ami proche aussi d'Adorno. Et ce fut aussi Adorno qui lui a ouvert la porte vers le cinéma en le mettant en contact avec Fritz Lang, dont il fut l'assistant lors du tournage de Le tombeau hindou. Kluge commence donc à faire des films vers le début des années 60. En 62, il est un des signataires du manifeste de Oberhausen, que vous ne connaissez peut-être pas non plus. C'est en fait un manifeste qui inaugure le nouveau cinéma allemand. C'était un cinéma d'auteur inspiré de la nouvelle vague française. Et ce cinéma nouveau revendiquait une position à l'opposé du cinéma allemand de cette époque-là, qu'ils appelaient le cinéma de papa, et qui pour eux était un cinéma commercial de divertissement, et qui était basé sur des conventions stylistiques et des sujets prétendument innocents, mais qui, mine de rien, résonnaient quand même fortement avec les films de l'époque nazie. Kluge les appelle les films à confection aussi. Il dit bah, ces films-là sont censés divertir et justement de détourner de la situation historico-politique hautement chargée en Allemagne. Au lieu d'enrichir l'expérience perceptive et d'inciter à réfléchir, ces films commerciaux s'inscrivent pleinement dans la stratégie de l'industrie culturelle et contribuent au maintien du statu quo. Donc, ils sont plus dangereux que d'être juste un divertissement. Les Oberhausen, comme on les appelait, s'opposaient à cette idée culinaire du cinéma, ça c'est un terme de Brecht, qui dissimule ses implications idéologiques et défendait au contraire un cinéma ouvertement politique, critique, complexe, capable de provoquer des débats publics et donc d'intervenir dans l'actualité politico-sociale. Donc il ne s'agissait pas seulement pour eux de faire des bons films, ça aussi bien sûr, mais de transformer carrément le cinéma en tant qu'institution, ainsi que sa position au sein de la société. Pour faciliter la production d'un tel cinéma engagé, les Oberhausener revendiquaient des conditions qui facilitent l'autonomie artistique de leurs films, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis des intérêts commerciaux de l'industrie culturelle et une liberté aussi vis-à-vis des formats standardisés. De leurs initiatives naît donc ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand, avec des réalisateurs que vous connaissez sans doute comme Fassbinder, Schlöndorff, Sieberberg, Werner Herzog et plein d'autres. Kluge est aussi en fait théoricien de films, mais aussi, il a aussi écrit des livres théoriques avec une orientation plus philosophique, sociologique, avec un autre élève d'Adorno qui s'appelle Oskar Nicht. Je crois qu'il était ici à Paris 8 il n'y a pas très longtemps dans un colloque. Leurs livres communs sont, comme ils disent, de la philosophie à deux, fortement bien sûr marqué par la théorie critique de la première génération surtout, donc Adorno, Horkheimer, Marcuse aussi un peu. Et dans leurs livres communs, ils s'intéressent surtout à la notion d'espace public, qui va être intéressant pour la réflexion de Kluge sur le cinéma. C'est pour ça que je vais juste dire deux mots, vraiment pas plus. Donc espace public en allemand, c'est Öffentlichkeit. Et ils disent que ça, c'est finalement la base même du concept de politique, et ils vont opposer à la notion habermasienne d'espace public bourgeois, qui est donc un espace public représentatif, ce qu'ils appellent un espace public oppositionnel, un espace public de par en bas, toujours en devenir, qui met en question la séparation entre le public et le privé, en rendant possible d'articuler publiquement des expériences et ainsi de politiser les perceptions et expériences des différentes subjectivités. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans le détail de leur théorie commune, mais juste dire que justement, c'est le cinéma pour eux est compris là dans sa dimension collective en tant que quelque chose qui peut devenir un potentiel espace public. Aussi la télévision, ça c'est plus tard que Kluge ça va être le terrain en fait d'action de Kluge à partir des années 80. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais juste dire que bon, le film est quelque chose qui compte en tant que quelque chose, un créateur ou un générateur d'un espace public. Les films sont, bon, ça je viens de le dire, la dimension collective, parce qu'un film peut générer des expériences partagées. Donc tout le monde dans une salle de cinéma voit la même chose. Donc il y a une base qui est donnée, une base sensible, donc pas seulement quelque chose d'imposé, mais quelque chose de sensible qui peut se dire. Mais ça, c'est possible seulement si les films ne colonisent pas la conscience. Ça, c'est une expression de Kluge. C'est-à-dire s'ils n'imposent pas un sens univoque et ne dirigent pas de manière autoritaire les émotions et pensées du spectateur. Là, vous pouvez bien sûr penser au film, le cliché hollywoodien du film, en fait. Quand il y a une scène romantique avec une musique dramatique et en fait, vous n'avez aucune possibilité de penser ce que vous avez présenté autrement. Eux, bien sûr, ils se réfèrent aussi au cinéma de papa. Donc, ce genre de film, vous voyez de quoi je parle. Ils disent qu'au lieu de stimuler l'imagination et la réflexion, ce genre de film impose un sens donné et bloque l'activité propre du spectateur. Les films qui intéressent Kluge et Necht, par contre, comptent avec et sur la part du spectateur, sur sa propre capacité de lier ce qu'il voit avec ses propres expériences, mais aussi avec ses idées, ses connaissances et ses fantaisies. Cet aspect, bien sûr, doit beaucoup à Brecht. Comme lui, Kluge et Necht considèrent le spectateur non pas comme un consommateur passif, mais comme agent capable de saisir et de penser pour lui-même, au même titre que le réalisateur. Un film qui s'inscrit dans une visée émancipatrice laisse explicitement de la place au spectateur et cherche à faire surgir, ça c'est encore une expression de Kluge, des films dans la tête du spectateur. Donc Kluge comprend vraiment le cinéma comme une collaboration dans lui en tant que réalisateur et propose quelque chose, mais ça doit être continué par le spectateur après. C'est parce qu'il y a à la fois une base commune, donc l'expérience partagée au cinéma, et des réactions subjectives qui peuvent se dire, que le cinéma a le potentiel de fonctionner comme un espace public ou de générer un espace public. C'est ici que Kluge prend une position plus modeste que Brecht, ou plus ouverte peut-être. Dans ses films, aucun message clair, aucun sens déterminé n'est déductible de ce qu'il nous donne à voir. Il prend donc la critique adornienne de l'art engagé très en sérieux. Donc, vous connaissez peut-être, mais Adorno condamne très fortement l'idée de l'art comme transmetteur d'un message, comme il le décèle entre autres chez Brecht, donc ça c'est un peu la base de sa critique de Brecht, même s'il s'agit d'un message qui vise l'émancipation, puisque selon Adorno, tout message explicite est étranger à la constitution d'une œuvre en tant que telle, donc en tant que quelque chose en dehors et libre de la réalité administrée. Et voilà, s'il y a un message, ça coupe la force inhérente de l'œuvre d'art, la force de résistance. Au lieu d'assumer son autonomie, l'art engagé ou explicitement engagé se plie à la logique instrumentale de la réalité et au lieu de résister à la structure omniprésente de la réalité administrée, l'art au service de quelque chose, et là pour Adorno, ça importe peu si c'est l'industrie culturelle ou le réalisme soviétique, donc l'art au service de quelque chose se laisse instrumentaliser pour une cause spécifique et donc assimilé à la logique même qui est à la base de l'oppression. Pour Adorno, l'art qui renonce à son autonomie, qui méconnaît ses propres conditions de possibilité, donc d'être fait social tout en étant quand même autonome, perd sa force de résistance. Donc il va bien sûr admettre que l'art résiste, l'art est politique, mais pas à travers des messages. Kluge va donc prendre cette critique adornienne en considération pour son travail artistique et aussi pour ses écrits. Au lieu d'adopter une position clairement déterminée ou de chercher à transmettre un message, il multiplie les éléments, fait appel à des temporalités et sources hétérogènes afin de les organiser sous forme de constellations. Ces films ne sont pas censés représenter la réalité telle qu'elle est d'après une idée préconçue, mais interroger ce qui se présente comme réalité, rapprocher des éléments qui viennent apparemment de mondes différents, rendre perceptibles des liens et corrélations potentielles entre les éléments sensibles et factuels et déplier les différentes temporalités qui la pénètrent. Bien qu'il renonce à l'idée de vouloir instruire ou éduquer son public, donc de prendre une position autoritaire, paternaliste ou autres, il tient à l'idée que l'art est capable de contribuer à l'émancipation. Il en est convaincu jusqu'à aujourd'hui. Non pas en montrant aux spectateurs comment faire ou quoi penser, ou en déconstruisant des dispositifs du pouvoir afin de les critiquer, mais en confrontant les images et les idées du pouvoir avec d'autres images issues d'un même réel, en suscitant des sensibilités hétérogènes, en multipliant les logiques à l'œuvre et en montrant les données factuelles à travers leur médiation subjective. Le concept qui nous intéresse ici, donc celui de réalisme antagoniste, est à comprendre à partir de cette idée d'un cinéma émancipateur. Kluge veut émanciper les spectateurs, mais en leur montrant que les idées dominantes sur la réalité perdent leur statut hégémonique quand ils sont confrontés avec des sensibilités complexes qui résistent à la subordination. D'un côté, quand même, Kluge s'appuie sur ce concept de l'idée, pour ce concept sur l'idée de réalisme de Brecht, encore une fois. Donc, c'est toujours, en fait, il est toujours entre Brecht et Adorno un peu. Brecht défend un réalisme de la construction, comme vous le savez, qui dévoile les structures du pouvoir cachées sous l'apparence lisse des images du capitalisme. Et le terme brechtien est donc tout autre chose qu'une question de style. Donc Brecht va vraiment même condamner cette idée de donner des indications stylistiques ou formelles. Il ne dessine pas du tout une reproduction photoréaliste de la réalité apparente, mais la production d'une perception critique de la constitution politique de cette réalité. Et c'est cette perception critique et la prise de conscience de la situation qui est facilitée à travers des stratégies artistiques comme, par exemple, le fameux effet de distanciation, donc l'effet Fremdungseffekt, qui devrait, selon Brecht, inciter les spectateurs à agir. Et pour Kluge aussi, là je le cite, le réalisme ne trouve jamais sa motivation dans la confirmation de la réalité effective, il ne la trouve au contraire que dans la protestation. Comme Brecht, Kluge ne veut pas du tout donner une image lisse de la réalité telle qu'elle apparaît dans les images diffusées par les médias de masse, mais protester à travers ses films contre ce dispositif qui les instrumentalise à ses fins. Le réalisme de Kluge s'oppose alors à un autre réalisme. Et là, ça devient un peu compliqué. Il s'oppose à ce réalisme que Adorno va appeler le réalisme surévalué, le réalisme des faits ou réalisme moyen, omniprésent dans la société, qui traverse aussi bien le positivisme que les discours dominants du libéralisme et du capitalisme et l'industrie culturelle. Contrairement au réalisme critique de Brecht et à celui de Kluge, ce réalisme des faits non seulement sépare, mais hiérarchise aussi les sphères de l'objectif et du subjectif, en privilégiant clairement les données factuelles, considérées comme déterminant ce qui est réel, et en consignant la sphère subjective au privé. Basé sur la rationalité instrumentale, ce réalisme des faits conforte le statu quo de la société et vise à museler les voix dissidentes, discours oppositionnels ou utopiques. L'appel à être réaliste, tant répandu dans les discours officiels, vise à rappeler à l'ordre, à ignorer les sentiments de révolte et insinue que, de toute façon, toute initiative qui voudra changer profondément la situation serait non seulement insensée, mais vouée également à l'échec. Ce réalisme conservateur refuse de prendre en compte les multiples médiations des données factuelles, les contextes multiples auxquels ils peuvent être rapportés, et les coupes de leur force vitale. Il est significatif que dans les films critiqués par Kluge et les autres Oberhausner, comme étant culinaires ou colonialisateurs, l'inverse est vrai aussi. Le revers de cette croyance au fait, comme étant déterminant pour la réalité, est la considération des sentiments comme appartenant à une sphère isolée. Dans les grandes productions de l'industrie culturelle, ils apparaissent souvent comme des grands moments sentimentaux complètement anhistoriques, hors contexte ou détaché d'un contexte politico-social. Le réalisme antagoniste de Kluge, par contre, rompt avec l'hégémonie du factuel, non pas en le remplaçant par du pur subjectif, mais en mettant cette réalité factuelle, objectif, rationnelle, en dialectique avec son autre. Les expériences subjectives, les sensations, imaginations, souffrances, fantaisies, illusions et désirs des personnes individuelles et collectives qui la vivent. car selon Klug, la réalité est elle-même une fiction historique, dans le sens que ce que nous vivons aujourd'hui a été produit par des hommes et des femmes, et la manière dont nous le vivons aujourd'hui est toujours une médiatisation subjective de ce qui apparaît comme objectif. Chez Klug, les sentiments et sensations ne sont pas une affaire privée, déconnectée de la réalité objective, mais au contraire des moteurs et des réactions, des interventions dans le cours de l'histoire qui sont le plus souvent réprimées par le réalisme des faits. Des refus d'un état de fait, par exemple, des projections d'un autre monde utopique ou des hésitations qui surviennent lors d'un appel rationnel mais violent. Avant tout, dit-il, une émotion est la capacité de faire des différences. Ainsi, ces pulsions sensibles sont, virtuellement, des forces politiques qui peuvent générer de la révolte et de la résistance contre ce qui est imposé. Ils sont directement liés au cours de l'histoire à la situation politique. Par conséquent, Klug refuse aussi la séparation nette entre la fiction et le documentaire. Car selon lui, il y a toujours du fictif, de l'invention, de la construction dans ce qui apparaît comme documentaire. Non seulement puisqu'il y a quelqu'un, genre le réalisateur, qui choisit les fragments, qui monte le tout ensemble, qui suit une intention, même si celle-ci peut être inconsciente, mais surtout parce que la réalité elle-même est elle-même constituée par des médiations de l'objectif par le subjectif et vice-versa, et parce que, comme je l'ai dit avant, l'idée objectiviste de la réalité est elle-même une idéologie. Et la fiction est toujours basée sur des fantaisies, dit Klug, sur des rêves, des souhaits réellement existants qui apparaissent dans une réalité spécifique et agissent sur elle. Car, je cite Klug encore, les souhaits n'ont pas un caractère moins réel que les faits. Il y a donc du documentaire dans la fiction et de la fiction dans les documentaires. Et les séparer radicalement relève, une fois de plus, de l'idéologie qui voudrait que la réalité soit à son image afin qu'elle puisse l'administrer le mieux possible. Dans les films hybrides de Klug, ceci se reflète entre autres dans les différents matériaux hétérogènes qui sont montés ensemble. Il y a dans ces films, entre autres, des images d'archives, par exemple de l'époque nazie, il y a des gravures populaires, des citations sur carton issues de la philosophie, de la littérature ou des discussions privées. Il y a des scènes fictives placées dans des contextes réels, comme par exemple celui de la démolition des maisons squattées à Francfort. Il y a des peintures, il y a de la musique classique et des bruitages. Parfois, ils brouillent même carrément les frontières au sein d'un même plan. Par exemple, il y a un de ces personnages fictifs, qui est Gabi Teichert, qui apparaît dans le film collectif Allemagne en automne et dans La Patriote. Et en fait, il envoie l'actrice qui joue Gabi Teichert dans un congrès de parti de la SPD réel pour faire une enquête fictive avec les personnes réelles qui sont là. Donc, il fait ce genre de choses. Donc, bien qu'il y a souvent un film narratif tenu dans ces films, il n'y a pas d'intrigue classique avec suspense, début et fin, mais des différentes strates et temporalités de la réalité qui se rencontrent. Ce qui intéresse Klug, c'est la manière dont les fragments résonnent à travers la constellation dans laquelle ils apparaissent par leur montage. Le montage est ce qui suscite, dit Klug, de percevoir ou de produire des Zusammenhänge. Et ça, c'est un mot un peu difficile à traduire. Donc, littéralement, il désigne « tenir ensemble ». Mais on peut le traduire aussi par contexte, comme rapport, comme interrelation ou comme lien. Donc c'est assez complexe comme mot. Déceler les Zusammenhänge hétérogènes est au cœur du réalisme antagoniste de Klug, comme ce sont eux qui permettent de politiser et de historiser la perception. Maintenant, le mieux aurait été de voir un film de Klug qui vous aurait montré tout ça beaucoup mieux que ce que je dis. Mais puisqu'on n'a pas le temps, je m'arrête ici.
Merci beaucoup. Et donc, la dernière communication donc de Sophia Dittli, qui s'intitule « Arnaud Desplechin, fascination d'auteur pour une bourgeoisie blanco-sexiste ».
Bonjour. Alors d'abord... Je voulais dire que j'étais ravie d'être accueillie par Penser l'émancipation parce que ça me donne l'occasion de reparler de ce travail sur la filmographie de Desplechin que j'ai réalisée pour mon Master 2 en 2013 et que j'ai ensuite enterré très rapidement. Et les occasions de mixiter des travaux et de présentation des mémoires étant assez rares, c'est très appréciable de pouvoir le faire aujourd'hui. En le relisant, je me suis aperçue que la façon d'approcher ces problématiques en 4 ans était déjà un peu datée. Et je vais donc faire une présentation assez personnelle de mon travail qui va plutôt à l'encontre de ta proposition, puisqu'elle prend plutôt la défense d'un cinéma mainstream. Mais demain matin, par contre, à 9h30, je me concentrerai un peu plus sur la possibilité d'une esthétique révolutionnaire en parlant du travail de l'artiste Matine qui a été présenté à la Documenta 14 entre Athènes et Kassel cette année et qui propose, lui, une esthétique de l'aliénation pour faire émerger un sujet collectif. Donc, pour revenir sur ma question de départ en 2013, ce qui m'intéressait, c'était de prouver la présence, ça c'était ma question de départ, c'était la présence du sexisme en milieu blanc et bourgeois. Il y avait pour moi cet enjeu très fort de déconstruire l'idée d'un machisme populaire ou racisé qui prenait surtout des formes d'expression corporelle avec des marqueurs de différenciation assez prononcés mais qui n'étaient pas nécessairement significatifs structurellement. Ça c'était l'enjeu. Je voulais aussi travailler sur des problématiques visuelles, mais dans le cadre de l'écriture d'un mémoire en 2013 à l'école des hautes études, ça a été un peu compliqué de trouver une méthodologie adéquate. Et je me suis rapprochée d'une directrice qui était sociologue plutôt de la littérature et une approche visual studies, bien que dans le cadre d'un parcours gender studies, donc une approche comme ça tendanciellement transdisciplinaire, ça avait été assez difficile à défendre. Parce que le département de genre était quand même rattaché à celui de la sociologie, ou de l'histoire ou de l'anthropo. Voilà. Donc j'ai finalement appliqué une méthode d'analyse assez objectivante, classique de sociologie, un corpus que j'ai choisi aussi de façon tout à fait personnelle liée à une anecdote. Donc je voulais à la base travailler sur le festival de films de femmes de Créteil. Et puis finalement, j'étais assez mal à l'aise avec l'idée d'une étude d'un sujet relativement allié, et en regardant, disons, dans mon temps libre, les films d'Arnaud Desplechin, et en discutant avec des amis, je me suis aperçue que ce qui apparaissait comme des rapports, qui m'apparaissait pour moi comme des rapports injustement sexistes, passait pour normal auprès de plusieurs amis. Donc, le personnage principal, joué par Mathieu Amalric, qui est l'avatar assumé de Desplechin, selon ses défenseurs, en prenait aussi un coup pour sa masculinité, parce qu'il apparaissait souvent comme un homme désespéré, peu heureux avec sa virilité, peu à l'aise. Plus tard, ça m'a conduite à réfléchir aussi à la question du modernisme, à l'héritage très moderniste qu'on trouve chez Desplechin. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait aussi quelque chose à creuser dans les liens entre romantisme et masculinité, dans cette sorte d'impossible réconciliation avec un monde pourtant bien accommodant pour la subjectivité majeure. Donc ça, c'est plutôt une question d'ouverture. Donc voilà, j'avais commencé comme ça, avec des critères sociologiques. Arnaud Desplechin a aujourd'hui 53 ans, il est blanc, issu d'une famille française bourgeoise, frère diplomate, sœur écrivaine, il est publiquement engagé dans des relations hétérosexuelles, il a étudié à l'IDEC, reçu son diplôme en 84. 10 ans plus tard, il a commencé à réaliser des longs-métrages. En 1996, « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », produit par Why Not Productions, comptabilise 267 909 entrées. Le personnage principal de ces films est joué par Mathieu Amalric, 48 ans, hétérosexuel, blanc, issu d'une famille française bourgeoise, père journaliste, mère critique littéraire. Il y incarne tout aussi souvent un homme blanc hétérosexuel évolué dans un milieu bourgeois, à l'instar du personnage d'Henri dans « Conte de Noël », 674 236 entrées. Donc, qui était, au moment où j'écrivais, le dernier long-métrage réalisé par Desplechin en 2008. Donc je trouvais assez important de visibiliser cette appartenance sociologique de l'auteur, parce que tous les artistes ne sont pas égaux devant cette question. On a tendance bien souvent à mentionner l'appartenance surprenante d'une artiste à une catégorie sociale minorisée, mais évidemment, on le dit plus rarement lorsque le sujet artiste est à sa place. On imagine pas un journaliste culturel parlant d'un dernier film de l'auteur cis et hétérosexuel Arnaud Desplechin. Donc l'idée, c'était ici de faire apparaître l'adéquation entre un point de vue apparemment neutre et universel et une position sociale dominante, de rendre visible ce procédé, puisque la non-reconnaissance des singularités sociales valorise les discours et les points de vue des dominants tout en les associant à l'idée d'un universel. Il s'agissait donc de reparticulariser le regard de l'auteur, là où les structures du discours n'avaient de cesse de le faire apparaître comme un sujet neutre et universel. Donc analyser la filmographie d'Arnaud Desplechin, ça m'a permis de mettre les pieds aussi d'un point de vue méthodologique, de pénétrer à l'intérieur de cette maison type de bourgeoisie blanche de province et d'en observer les rapports sociaux de sexe majoritairement, principalement. Et donc ça m'a donné aussi accès en quelque sorte à un terrain pour faire une analyse de contenu. Et comme on le sait, la théorie du cinéma s'attache plus généralement à la critique formelle et au signifiant plutôt qu'au signifié. Et moi, j'ai plutôt cherché à inscrire le problème que pose cette représentation du social en m'attachant à l'analyse de contenu pour comprendre quel fragment y est représenté et comment ce fragment social prend place dans des rapports sociopolitiques. Donc, en tentant de mettre en lumière les rapports sociaux de sexe dans leur articulation rapports sociaux de classe et de race, j'ai inscrit cette étude dans une approche de type théorie féministe du cinéma plutôt que d'une critique du cinéma féministe. Et ça me semblait finalement plus intéressant de mettre en tension cette situation, tandis que justement la blanchité tout comme la masculinité sont moins évidemment étudiées parce qu'elles apparaissent comme moins marquées. Pour analyser ce contenu, j'ai mis en place d'abord une analyse de film en écrivant des résumés linéaires à la manière d'entretiens, comme on pourrait faire des entretiens, une grille des lectures de films, à l'instar d'un guide d'entretien. Et ça va aussi à l'encontre de la méthode type de critique de cinéma, par exemple, qui s'intéresse avant tout à la mise en scène et donc à l'auteur. Là, l'idée était plutôt de travailler sur l'objet film comme fragment, donc comme contenu. J'ai quand même commencé par analyser 112 articles dans Le Monde, Le Figaro, Libération, Télérama, Le Point, Nouvelle Obs, Les Inrocks, Le Quotidien de Paris, et aussi à peu près la moitié dans les cahiers du cinéma et de Positif. Et donc il y a des petites anecdotes comme ça. Donc, par exemple, s'il aime à dire qu'il est plus inspiré par Batman ou Pretty Woman que par les auteurs français, Desplechin est néanmoins souvent considéré par ces différents journaux comme héritier de la nouvelle vague. Et effectivement, la place douteuse qu'il accorde aux personnages féminins m'ont donné envie de confirmer cette hypothèse. Donc, dès ses premiers films, les articles sont très élogieux. Les critiques et les journalistes culturels sont assez unanimes. Et pourtant, je trouvais que ça révélait quand même le grand sexisme de ces personnages avec des femmes stéréotypées dans des critères esthétiques et plus généralement donc ces valeurs. Il y a une journaliste, donc sur ces 150 articles, il y a une journaliste qui relève le grand sexisme de ces personnages et qui vient à parler des critères esthétiques et plus généralement des valeurs blanches, bourgeoises, mâles, hétérosexuelles et sur le fond assez conservatrices et misogynes. Elle parle d'un cinéma de garçon qui n'envisage la femme que comme objet de désir ou de fantasme. Un cinéma bourgeois qui croit trop au caractère universel de ses codes et qui gomme par égotisme, esthétisant tout rapport de domination. Donc cet article, c'était le seul qui ne soit pas élogieux parmi plus d'une centaine d'articles parus et recensés à la BPI. En dehors de quelques articles du critique du Figaro qui jugeait ennuyeux, donc les seules critiques c'était le milieu des doctorants en philosophie est un peu ennuyeux, ou la prise de parti de Libération pour Marianne Denicourt, qui avait accusé Arnaud Desplechin d'avoir volé sa vie pour en faire un film, sans la narrativité de leur histoire. Sinon, voilà, toutes les autres parutions journalistiques faisaient l'apologie du travail du cinéaste et cherchaient à comprendre et révéler les mystères du génie. C'est vraiment toute cette rhétorique du génie, de l'auteur, ça viendrait de nulle part, c'est jamais sociologisé. Et ensuite, je me suis intéressée aux travaux donc, de cette question de la Nouvelle Vague, en partant de cette idée d'héritage de la Nouvelle Vague, aux travaux de Geneviève Cellier et de Noël Bourche, qui critique la façon dont la politique des auteurs dans le cinéma français insiste sur le mystère qui entoure le génie créateur. Donc la fausse neutralité de ce génie transparaît cependant assez rapidement quand on regarde de plus près les éléments sociaux qui constituent ces films. Par exemple, la maison de famille, qui est un élément récurrent. Les tapis sont nombreux, les meubles rustiques et solides. Elle est suffisamment grande pour accueillir une dizaine de personnes. La répartition genrée s'observe de façon assez binaire dans les différentes pièces de la maison. Et quand il ne s'agit pas d'une famille, mais d'un groupe d'amis dans « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », la structure de la maison de famille est reproduite dans les différents appartements parisiens. Il y a une continuité entre la maison de famille et puis les appartements d'amis. Et les discussions, par exemple, entre femmes se déroulent souvent à la cuisine, alors qu'elles sont en train de travailler, ou bien à l'extérieur, en fumant une cigarette, tandis que les discussions entre hommes prennent toujours le temps d'avoir leur discussion dans un salon, dans un bar. Ça s'expliquait aussi par la configuration d'un groupe d'amis, donc voilà, je parle toujours de comment je me suis disputée, qui structurait autour d'amitiés masculines. Et les femmes et les relations qu'ils entretenaient avec elles étaient vraiment satellitaires. Après, il y a le lieu de l'université. C'est intéressant de revenir là-dessus. Où on a une apparence de mixité, parce qu'il y a des rôles d'hommes, de femmes, mais qui sont jamais égales, les rôles de femmes sont jamais à égale mesure de ceux des hommes. Donc elles sont femmes d'universitaires. Elles ne font rien en ce moment, alors que tous étudient, préparent leur thèse en philo ou sont en poste. Esther commence des études de traduction, donc à un niveau de master. La seule femme, qui est jouée par Balibar, par Jeanne Balibar, qui elle aussi étudie la philo, demande à l'un des hommes du groupe de la suivre pour son DEA. Donc on n'est quand même pas. Les rapports hiérarchiques sont assez clairs. Et pourtant, son personnage de femme intelligente. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que son personnage de femme intelligente accompagne une certaine folie. Pour moi, c'était un personnage un peu proto-féministe. Elle a les cheveux courts, elle assume sa sexualité, elle est comparée symboliquement au diable, et le propos sur sa sexualité prend le dessus sur son intérêt pour Adorno. Elle finit par être violemment exclue d'une salle de cours. Donc, idem pour les lieux de culte et les lieux hospitaliers, la question de la folie est assez présente, parce que la question de la folie est assez présente chez les Pléchins. Dans Rois et Reines, on voit apparaître l'un des seuls personnages non blancs de sa filmographie, sa psychanalyse pour laquelle il s'échappe de l'HP et qui s'appelle De Vaulx. Cette femme, donc c'est le seul personnage non blanc, est autoritaire et accueillante. Elle correspond à la version, pour moi c'est un peu la version intello de la nounou noire. Elle est représentée comme assez désexualisée. Donc voilà, elle a les cheveux courts, la question de sa libido n'apparaît jamais, elle est aussi très exotisée, elle a une sorte de rôle de magicienne. Sa voix est grave, les médecins évoquent à la base un pronom masculin pour parler du médecin, et son nom est écrit sur un papier, sans prénom ni titre. Donc il y a toute cette ambiguïté, on ne sait pas trop si c'est un... on ne connaît pas son genre. Et finalement, donc, en arrivant au cabinet du spécialiste... Ismaël est accueilli par cette femme. Alors qu'à l'HP, il a une aventure avec une jeune infirmière blanche, il repousse les avances d'une autre jeune femme blanche internée pour dépression. Et chacune des femmes de l'hôpital, qui sont liées aux soins d'Ismaël, ont un rôle dans le spectre sexuel de l'auteur et du personnage neutre. À l'exception de cet analyste, qui est une sorte de personnage mythologique. Et d'ailleurs, elle porte le nom d'un mort. Elle est vraiment hors réel, quoi. Le cabinet du psychanalyste revient aussi plusieurs fois dans la filmographie des Pléchins et il avoue, dès les premières séquences, qu'il déteste sa mère. Les trois personnages principaux féminins sont donc représentés comme des femmes fortes. Leur fragilité est mise en scène, mais ce n'est pas le propos du film. En fait, elles sont toutes entourées par des hommes plus forts qu'elles, des personnages masculins qui les guident. Pascal a une relation assez forte avec son père et déteste sa mère. Nora, c'est l'exemple du ridicule de la féminité. Esther Kahn pourrait être valorisée dans son ascension, mais chacune des marches qu'elle réussit à franchir passe par la soumission à un homme. Et en se subjectivant en tant que femme, elle s'émancipe. Son pouvoir est relatif à l'acceptation de son assujettissement dans une subjectivité femme, dont le statut est inférieur à celui de l'homme qui la guide. Donc le réalisateur semble vouloir mettre en évidence le facteur choix dans son ascension, or ses choix sont toujours orientés, guidés par des hommes. Et finalement, elle réussit à trouver sa note, à devenir elle-même, parce qu'elle a connu l'amour pour le dramaturge. Et avant cela, elle était endormie, et elle est décrite comme ayant eu une adolescence éteinte, comme ne ressentant rien, ce qui est aussi un classique. Donc, voilà, je voulais passer par cette analyse de contenu pour prouver qu'il y a des rapports sociaux qui positionnaient différemment les hommes et les femmes dans l'univers professionnel ou bien non professionnel. Il y a aussi une différenciation très claire entre les personnages actifs et inactifs, les personnages inactifs étant souvent joués par des femmes. Et cette répartition se traduit par une sorte de mythologie de la féminité qui est tantôt trop puissante, trop faible, hystérique ou manipulatrice. Donc pour arriver à ces conclusions, j'avais analysé les rapports à l'espace, j'ai un peu parlé, à la profession, aux personnages annexes, en insistant particulièrement sur la mère, qui est tantôt sorcière, ou cruelle, ou mauvaise, tout simplement. Et ça aurait été finalement un mélange entre analyse de discours journalistique, analyse de contenu, une généalogie de l'intersectionnalité dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui parce que, par exemple, c'est une chose qui me semblerait moins utile si je cherchais des outils pour poser la question. Mais la clé, c'était surtout lire le travail de Cellier, où j'ai trouvé comme, voilà, une clé de lecture assez importante et un élément qui a marqué ma compréhension de la filmographie de Desplechin. Comme on le disait souvent, arrêté de la nouvelle vague, voilà, j'étais allée creuser de ce côté. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'était un procédé. Elle mettait en lumière ce procédé assez classique des avant-gardes esthétiques, ou du moins des mouvements esthétiques relativement révolutionnaires sur un plan formel, mais qui pour des questions économiques et pour des questions de production, n'avaient pas besoin de s'actualiser sur la question des mœurs ou des rapports, des rapports sociaux de sexe. Et par exemple, la nouvelle vague rencontrait pas de problème et de contestation parce que le réseau de production ou le réseau de reconnaissance ne concernait que les pères. Alors que quand elle compare un cinéma grand public mainstream de l'époque, finalement, elle y voit quelque chose de plus progressiste parce que ce cinéma mainstream devait se plier à la nécessité d'un contentement d'un public politisé. Donc je conclue sur ce point pour mettre une importante dissociation entre révolution esthétique et révolution sociale, et pour aussi déconstruire l'idée d'un mainstream qui serait nécessairement moins politique. Et du coup, je voulais aussi te poser la question, avec la présentation de ce mouvement dont tu as parlé, sur comment se financer les films, comment le rapport au public a peut-être changé les rapports sociaux de sexe, entre les films publics, les films pour la télévision et les films pour le cinéma. Est-ce que cette esthétique qui est considérée comme enfermante, un peu autoritaire, est-ce qu'elle est vraiment toujours opposée à la possibilité d'une émancipation, si en fait elle s'inscrit, si elle concerne en fait un plus grand public. Voilà.
Merci beaucoup.